7h15 minutes, il y a un autre dirigeant après Michael Sabia qui annonce son départ de la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
Oui, Stéphane Étroit quitte. Pas, je fais mon mauvais jeu de mots. Il se sentait à l'étroit à la caisse. Non, la réalité, c'est qu'il quitte pour des raisons familiales. C'était le premier vice-président et chef de placement privé. Ouais.
Non, mais tu sais, des raisons familiales, en politique puis dans le monde des affaires, on l'entend souvent. Là. Ça peut être vrai comme ça peut être le prétexte.
Ben, c'est le fond d'avoir une famille, comme je disais tantôt, pour pouvoir dire que tu quittes pour ces raisons-là. T'sais. Mais revenons à l'arrière. Quand un capitaine quitte le navire, donc Michael Sabia, comme Moussaillon, tu as deux options. Hein? Tu demeures membre de l'équipage et tu regardes les options de promotion ou tu choisis de partir. Et c'est drôle, le timing is everything. Bon, peut-être que M. Étroit s'est dit « Je regarde ce qui s'en vient. » Je lis entre les lignes. Je me dis, ah, le président s'en va. Tu vois que tu n'as pas de chance d'être président. Tu vois que le successeur qui s'en vient ou le type de gestion qui s'en vient, tu n'es peut-être pas dans les bonnes grâces. Ça fait peut-être pas ton affaire. Tu as peut-être une opportunité ailleurs plus intéressante maintenant que tu as été quelque temps dans le bateau. Tu vois que le nouveau président ou la nouvelle présidente va peut-être amener une garde rapprochée qui fera pas ton affaire. Et on peut spéculer longtemps sur qui va remplacer Michael Sabia puis sur le jeu de coulisses. Mais la caisse, c'est très, très opaque dans le message. Donc, ici, tu vois très bien que comme on a donné beaucoup de responsabilités à M. Aymon, là, M. Aymon commence à prendre du galon en arrière du prochain président si c'est pas lui-même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir dans le passé. Parce que, Paul, si tu fouilles un peu, depuis 2016, il y a eu le départ d'Andreas Berutsos, qui était parti parce qu'il avait rempli le mandat qu'on lui avait confié. Ça, c'était évidemment le mandat officiel, la réponse officielle. Lire entre les lignes, c'était peut-être mal adapté à ce qui se passait au Québec, puis il n'y avait peut-être pas eu la gestion qu'il fallait avoir. Après ça, t'as Roland Lescure qui quitte un poste extrêmement payant pour s'en aller en politique française. Lire entre les lignes, il voulait peut-être la job à Michael Sabia, puis Michael avait décidé de rester. Puis peut-être qu'on lui a fait comprendre que même lorsque Michael quitterait, ce serait peut-être pas lui l'homme de la situation. Et là, on a appris récemment que même notre ministre, Éric Girard, aurait voulu avoir la job.
En tout cas, gros job à la caisse, puis ça a été non.
Ça a été non. Ça a dit, t'es pas assez bon. Hein? Puis là, c'est drôle parce qu'il se retrouve un peu un genre de supérieur hiérarchique au niveau de la structure. Mais dans le moment, qui va être là? Parce que là, Charlemont, avec toutes les responsabilités qu'il a maintenant au niveau du placement, est-ce que il est dans l'antichambre du pouvoir en attendant d'être nommé président? Ou c'est le futur numéro 2 qui a tous les chapeaux de la gestion privée dans ses poches? Je sais pas. Mais ça commence à être extrêmement intéressant. Écoute, si on avait une émission de sport, dans le moment où on pourrait faire un avant-match, un match, puis un après-match pendant 8 heures RDS là-dessus, avec des gens du milieu de la finance, mais il va falloir attendre la décision vers février, là, de savoir qui va être le nouveau ou la nouvelle présidente de la Caisse.
Bon, le dossier de Capital Média, c'est-à-dire les journaux, Le Soleil, Le Nouvelliste et tous les autres, là, il semble que la formule retenue, ce sera une espèce de coopérative.
Ouais. Mais là, Paul, la coopérative, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est la démocratie. Mais ce qu'il y a de pas beau là-dedans, c'est aussi la démocratie. Parce que quand tu as une entreprise de presse où il y a une formule plus autocratique, c'est-à-dire qu'il y a un gestionnaire, il y a un propriétaire, donc on impose une façon de faire. Là, quand c'est coopératif, puis que les membres vont voter, puis que les membres ont décidé d'avoir augmenté ou non de salaire, puis les membres vont devoir participer, puis mettre une part sociale. Faut que ça fonctionne. Je connais une coopérative qui marche bien, c'est la Barberie à Québec, là, la microbrasserie, où les gens ont une part puis font partie d'un projet commun. Bon, mais là, les médias, par contre, on a la misère à avoir de l'argent. On va geler les salaires. On va perdre le déficit actuariel. Comment ça va fonctionner au niveau de la gestion puis de ce qui est demandé par chacun? Parce qu'imagine, là, t'es membre de la coopérative, t'es un journaliste. Puis là, tu vois ton collègue de travail qui travaille moins fort que toi. Avant, tu peux te dire, ah, c'est le boss qui se fait abuser, mais là, c'est toi puis la survie de ton modèle d'affaires qui est là. Donc, c'est quoi le niveau de travail exigé? Ça va être quoi les augmentations de salaire qu'on va se voter? Est-ce qu'on va pouvoir? Et là, on voit qu'écoute, il y a de l'argent qui est là-dedans. Là, il y a le fonds de la FTQ, Mouvement des Jardins, le fonds d'action, le gouvernement, un prêt, une subvention... En somme, on veut sauver l'information. Mais est-ce que je pense, Paul, que tout le monde qui met de l'argent là-dedans va revoir ses dollars? C'est quand même difficile, parce que même si c'est une coopérative, ça vient pas changer la réalité qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Donc, ça va prendre des dons.
Puis là,
la
presse, vu que les retraités vont se retrouver avec des coupures de revenus de 10, 15, 20, peut-être même 30 % à partir du mois de janvier.
Ouais, mais il y a une logique derrière ça. Puis là, les gens ne perdent pas les cotisations qu'ils ont versées, non, ni les cotisations de l'employeur. Ce qu'ils perdent, c'est le déficit, c'est-à-dire la différence entre la promesse qui leur était faite et ce qu'ils avaient accumulé dans la caisse. Et c'est un reality check pour tout le monde au Québec. De dire, t'as un régime de retraite, s'il n'est pas capitalisé, puis ton entreprise n'est pas bonne jusqu'à la fin des temps, t'as un risque d'affaires. Et comme contribuable, même en ayant un régime de retraite, parfois, faut penser à ses actifs, c'est-à-dire une maison, du CELI, un actif sur le côté pour se dire, si mon régime de retraite fait défaillance, qu'est-ce qu'il va y avoir pour moi? Et c'est triste parce que c'est des gens qui se fiaient là-dessus. Donc, il y a plein de gens qui ont des régimes à prestations déterminées qu'ils vivent avec 100% de leur salaire en se disant, bah, c'est pas grave, c'est assuré comme retraite. Et là, oup, 30% de moins. Mais si ta retraite, c'était supposé être 50 000, moins 30%, fais le calcul rapide, là, t'es rendu à plus du 35 000 que du 50 000, c'est plus la même retraite. Tu sais, mais c'est 30% de l'employeur, évidemment. Il y a toujours la sécurité de vieillesse, le régime des rentes du Québec qui est là. Mais moi, ce qui me fascine, c'est de dire, OK, c'est beau sur papier, tout le monde met de l'argent, mais c'est un peu le même défi que la presse. Une fois qu'on transforme ça, on se transforme ça en structure qui a l'air à être pour le bien commun, là, faut trouver des dons. Puis il faut que les gens en région embarquent, puis pas juste la première année. Ça va te prendre des abonnés qui disent « Moi, là, je vais te verser le 30$ que je t'aurais versé autrement directement. » Puis que les entreprises mettent un petit 1000, puis un petit 2000, puis réussir à financer l'information et de complètement changer le signal de prix des consommateurs. Leur dire « Toute votre vie, pendant des années, plutôt, vous avez pensé que l'information était gratuite, mais elle n'était pas gratuite, et là, on doit payer le juste prix. Êtes-vous prête à payer le juste prix de l'information dans votre région, oui ou non? C'est le temps du vote. »
Merci, monsieur. Bonne journée. Salut. 7h22.